Bon, j'ai deux micros. Je ne sais pas lequel travaille. Ce serait mieux qu'elle éteigne son micro-cravate. Merci beaucoup. C'est bien de voir tant de gens ici aujourd'hui. Mon travail aujourd'hui, c'est de vous expliquer le processus d'élaboration de codes de pratique exemplaires en matière de bien-être des animaux. Et nous allons voir comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire à l'avenir. Et je pense que je vais vous laisser un petit défi pour vous tous. Alors, il semble que les diapos avancent tout seuls. Merveilleux. Les codes sont et doivent être notre compréhension nationale des besoins de soins des animaux ainsi que les pratiques exemplaires recommandées. Ils doivent être éclairés par des recherches scientifiques pratiques parce qu'ils ne sont pas pratiques. Hein, personne ne va s'en servir. Et ils doivent faire état des attentes de la société pour les soins responsables aux animaux. Ils doivent faire tout cela parce que les codes jouent un rôle extrêmement important au Canada. C'est le fondement même de tout ce que nous faisons en matière de bien-être et de soins des animaux. Donc, c'est très important que tous disent son mot et que tous soient d'accord avec les codes. Les codes servent tout d'abord comme outil pédagogique. Ça, c'est là le rôle dès le début et continue à être le rôle le plus important. J'ai assisté à plusieurs conférences récemment là-dessus. La recherche se poursuit sur comment faire l'extension de l'information et quelle est la meilleure façon d'améliorer le bien-être des animaux sur la ferme. Et en fait, c'est une question d'information qui a été la meilleure façon d'aller vers la majorité des éleveurs et la meilleure façon d'assurer le meilleur soin aux animaux. Ce ne sont pas les règlements et ce n'est même pas les programmes d'évaluation qui vont l'assurer. C'est la transmission de l'information. Nous devons garder ça à l'esprit. Qu'est-ce que c'est qui rejoint la majorité des gens est l'outil le plus efficace? Parce que les gens, en général, veulent faire ce qu'il faut, la bonne chose. Les codes sont aussi utilisés comme matériaux de référence pour l'élaboration de règlements, là où l'information ne suffit pas. Et ça, c'est de plus en plus le cas au Canada. De nombreuses provinces font référence aux codes dans le règlement sur le bien-être des animaux. Et comme Robin l'a mentionné, les codes deviennent le fondement des programmes d'évaluation des produits. Ceux qui en ont déjà élaboré ont utilisé les codes comme base et le modèle d'évaluation des soins des animaux à mesure qu'il évolue. Bon, là, ça, c'est de plus en plus clair parce qu'on a coupé un des deux micros. Fantastique. Il me semblait que je parlais dans une bulle. Un seul micro suffit. Le modèle d'évaluation des soins d'animaux sera utilisé comme mécanisme pour l'élaboration pour démontrer que l'on respecte le code, que l'on observe le code. Bon, clic. Est-ce que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Bon, peut-être si je pèse plus fort. Bon, nous avons eu des codes depuis quelques lustres déjà, vous le savez, bien sûr. Quand le CNSA a été créé en 2005, on nous a donné le mandat de réétablir ou de refaire les codes, de remettre sur pied le processus d'élaboration des codes. Et quand nous avons débuté à ce faire, la première question qu'on s'est posée, c'est les codes, c'est-tu utile ou est-ce que c'est dépassé? Je me rappelle d'avoir jasé avec David Fraser à l'époque. Il a fait le commentaire suivant. Il m'a dit, vous savez, les codes, c'est bon pour les années 80. Ils sont encore bons pour les années 80. Et le message, c'est qu'il fallait les mettre à jour pour faire état des nouvelles demandes, nouveaux besoins et les attentes de notre époque. Et nous avons travaillé très fort à faire ça dans le processus d'élaboration de codes pour nous assurer qu'il y avait des liens très clairs entre les recommandations et les exigences et les trouvailles de la science, pour que l'on sache très bien d'où viennent les exigences et recommandations. Améliorer donc de la sorte la transparence du système de code, par exemple avec une période de commentaire de 60 jours. Et nous poursuivons dans ce projet, nous en apprenons encore plus sur l'importance d'améliorer la transparence dans l'élaboration des codes. On tente de nouvelles techniques pour habiliter des gens qui ne participent même pas au comité d'élaboration de codes de contribuer, par exemple, par un site Internet pour le code des équidés. On a mis un outil de sondage pour permettre aux parties prenantes de s'exprimer sur la mise à jour du code et ce qui est important. Maintenant, je ne veux pas miner le comité d'élaboration de code parce que là, mais c'est important que les parties prenantes soit d'accord et qu'il sache qu'il y a des codes et qu'il respecte le code une fois approuvé. Nous voulions aussi retenir ce qui fonctionnait bien dans le processus antérieur. Et l'une des choses les plus importantes qu'il y avait déjà, c'était la nature, c'était la collaboration qui présidait au processus d'élaboration des codes.
How is this supposed to work? Oops, I went back. I went too far on that one. So the French is working, the English isn't.
Bon, le français répond à mes commandes, mais non pas l'anglais. Malheureusement, je ne parle pas français. Quoi qu'il en soit, allons-y. L'approche collaborative du processus d'élaboration de code fait la promotion du concept que les codes reflètent une compréhension nationale des exigences et des pratiques exemplaires et créent aussi un environnement pour diverses perspectives de se rassembler et ainsi fournir une orientation commune et durable sur les soins des animaux à la ferme. Et toute cette participation active fait la promotion de l'acceptation. Nous demandons aux représentants du code pas seulement de chauffer un siège, là, nous demandons de vraiment représenter le secteur ou l'organisme qu'il représente. De la sorte, ces organismes vont appuyer le code qui en résultera. C'est l'élaboration d'une compréhension commune par rapport aux soins des animaux dans un secteur donné. Bon, clic, clic. Moi, je touche plus, là. On va laisser Shiva s'en occuper. Alors, l'équipe de développement des codes comprend deux volets. Il y a le comité d'élaboration de codes qui a un secrétariat, et c'est tous les secrétaires de codes sont ici. Les comités d'élaboration de codes, vous avez là la liste des groupes représentés. Cette représentation assez large, cette expertise assez large aussi sur chaque comité, fait état des vues diverses que nous avons sur le bien-être et les soins des animaux de ferme. Le modèle consensus est utilisé pour la prise de décision. Pas de vote. On ne vote pas. Cela signifie qu'on peut passer des heures à discuter d'une question qui semble très petite. Et plusieurs d'entre vous comprendront, mais c'est très important parce que nous ne voulons pas marginaliser un des membres du comité qui s'imagine qu'étant dans la minorité, sa voix n'a pas compté. Non, on n'en veut pas de cela. Les parties prenantes donc, par leur participation, là, ont un sentiment d'appartenance au code. Et ensuite, il y a le comité scientifique. C'est une nouvelle édition au processus. Il y a un écrivain et cette équipe travaillent ensemble. Le comité scientifique, en travaillant ensemble, rend possible d'identifier des solutions fondées sur les preuves qui, en matière de préoccupation de touchant soin des animaux, d'élevage et aussi nous assurer que l'élevage est durable et satisfaire les attentes du marché des consommateurs. Bon, là, ça marche bien, là, fantastique. Nous avons ventilé le processus d'élaboration de code dans cette étape. Ça prend à peu près 2 ans. Le processus d'élaboration, votre prochaine étape, s'il vous plaît, c'est le groupe industriel qui amorce le processus. Ça, c'est un élément important. Nous ne forçons personne et nous n'amenons pas poings et poiriers à la table. Chacun vient de son propre chef et c'est très important. Si on veut que le code soit respecté, il faut que les gens participent avec le bon esprit, c'est-à-dire volontairement. Personne, donc, n'est forcé à mettre à jour son code sectoriel. Chaque groupe qui le fait parce que eux-mêmes ont vu que c'était bon pour eux. Prochaine étape, c'est que le CNSE annonce que l'on fait la mise à jour. Ça, c'est sur le site Internet du CNSE. Vous avez peut-être aussi vu les communiqués de presse que l'on émet lors d'une mise à jour. Le comité de développement du code, c'est la responsabilité du groupe industriel de fournir les membres, mais il y a des lignes directrices pour les aider à se faire. Bon, on est... Voilà. Oui, on est encore là. Alors, même si c'est l'industrie qui choisit les personnes sur lesquelles ils doivent représenter chacun des groupes que vous voyez là, et ils doivent travailler avec l'organisme de chef de file de leur secteur pour identifier les personnes qui vont participer au comité d'élaboration de code. Encore une fois, nous voulons que chaque groupe accepte et le processus et le code résultant. Et c'est donc important que les organismes nationaux soient impliqués notamment dans l'identification des représentants, parce que ces organismes nationaux devront accepter le code aussi. Merci beaucoup. Le travail du CNSEA est de monter le comité scientifique. Et pour ce faire, nous allons vers la Société canadienne des sciences d'élevage, la Société internationale des animaux et l'Association canadienne des vétérinaires. On dit, suggérez-nous les noms, qui doit participer à ce comité? Et ce qu'on leur demande de faire, c'est d'identifier des personnes qui sont activement impliquées dans la recherche touchant cette espèce animale, idéalement des gens que l'on connaît bien, qui ont une renommée. Quand on pense à cette personne, on dit, ah, ça, c'est le spécialiste de telle espèce. Et ça, ça fait état de la crédibilité que l'on veut voir sur notre comité scientifique. Nous cherchons une représentation assez large aussi au comité scientifique pour que l'on traite de la vaste gamme des façons de concevoir la santé nationale, que ce soit une question de santé, que ce soit la question comportementale ou autre. Le comité d'élaboration de code et le comité scientifique travaillent ensemble pour identifier les questions prioritaires en matière de bien-être. Et c'est exercice intéressant parce qu'on a une pile de choses et il faut finir par identifier 3 à 6 questions prioritaires qui pourraient tirer le plus avantage d'un examen de la documentation scientifique. Bon, d'abord, il faut que ce soit un domaine où il y a déjà de la recherche et souvent, ça finit par être un domaine où il y a divers points de vue. Donc, il faut réduire cela à une liste qui peut se faire en 1 an de recherche. Enfin, c'est de la recherche documentaire, hein, pas de la recherche principale. Le comité d'élaboration du code. Hop, j'ai sauté un point. Bon, qu'est-ce que c'était? Bon, ça me reviendra. Le comité d'élaboration du code, donc, commence la rédaction du code. C'est ça. Ah oui, je me souviens. Toutes ces questions de prioritaires en matière de bien-être, mais qui sont prioritaires, mais qui ne sont pas dans la liste de ceux qui feront l'objet d'une analyse de la documentation, sont abordées dans le code et c'est le comité d'élaboration du code qui doit le faire. Il travaille pendant que le comité scientifique prépare son rapport sur la documentation scientifique touchant les autres points. Il prépare un projet de code touchant tous les points qui n'ont pas été soumis au comité scientifique pour analyse de la documentation. Le comité scientifique donc fait son analyse des 3 à 6 questions prioritaires. Prend un rapport, ça prend 1 an, prochaine diapo, et finalement, le comité scientifique envoie son rapport au comité d'évaluation du code pour examen qui s'assure que toutes les réponses sont fournies aux questions posées. Et un autre élément clé touchant le comité scientifique, c'est que ce rapport ne fait aucune recommandation, mais ne dit que quelles sont les conclusions basées sur la science. Les conclusions scientifiques, tout simplement, c'est important qu'il en soit ainsi parce que la science ne peut que nous dire ce qui est et non ce qui doit être. Et la décision quant à ce qui doit être est faite par le comité d'élaboration de code qui, de façon plus précise, fait état de toutes les perspectives de la société. Bien sûr, les chercheurs siègent aussi par sa présidence au comité d'élaboration et la communauté de recherche est donc impliquée activement dans ce qui devrait être, mais ce n'est qu'une voix parmi un grand nombre sur ce qui doit être. C'est un élément clé du fonctionnement de notre comité scientifique. Une fois le rapport du comité scientifique approuvé par le comité d'élaboration du code, ça va un examen de pair, un autre niveau de crédibilité. Sur ce que dit le rapport. Et le comité d'élaboration, à ce moment-là, utilise le rapport du comité scientifique pour poursuivre sa rédaction du code sur les points en question. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Étape 5, la dernière version du code, ça prend environ 1 an à le mettre au point, là, une fois le rapport scientifique reçu. Donc, la dernière version du code est présentée au CNSE. C'est là que le comité pense avoir fait le tour de la question, avoir une bonne version du code en main, et le CNSUA le prépare pour une période de commentaires du grand public. C'est peut-être là. En fait, c'est un jour très important au processus. En même temps que le code est rendu disponible pour commentaires du grand public, le rapport scientifique est aussi rendu public. Et on peut voir comment ce rapport a donc été utilisé dans l'élaboration du code. Une prochaine diapo, s'il vous plaît.
La rétroaction est envisagée par le code d'élaboration. Ils vont faire des révisions lorsque nécessaire. Lorsque nous avons travaillé sur le code laitier, c'était formidable de voir tout le feedback, toute la réaction, c'était positif de voir de part et d'autre toutes les réactions que nous avons reçues. C'était un défi de compiler tout cela, mais je dois dire que le comité a pu encore améliorer le code avec toutes ces réactions et produire un produit final encore meilleur. Alors, je veux mettre l'accent sur cette période de commentaires publics. Et certains d'entre vous savent que c'est très important. C'est une étape valable, même si on a ces grands spécialistes autour de la table. Parfois, on a une valeur supplémentaire à voir des réactions de ceux qui regardent les questions un peu différemment. Prochaine diapo. Le code final est soumis au CNSAE, une fois que le comité a fait son travail, et le CNSAE est responsable de le publier et de rendre ça disponible. Et ensuite, le travail difficile commence. Comme les producteurs laitiers le constatent, les efforts pour mettre en œuvre le code, et c'est un processus sur plusieurs années. Ces efforts de mise en œuvre du code sont continus. Et c'est quelque chose qui prend du temps aussi. Prochaine diapo. Pour réussir, nous avons besoin d'une participation active autour de la table. On doit collaborer, faire preuve de patience. On doit chercher un consensus. Et ce qui est vraiment épatant, lorsque nous élaborons ce code de cette façon-ci, nous l'avons vu avec le code laitier, nous avons créé des rapports, des relations à long terme. Et c'était très important. Les stéréotypes, les idées reçues qu'on avait à la table ont été éliminés et nous avons vu ce que nous avions en commun plutôt que de regarder tout ce qui nous différencie. Et lorsque nous commençons à créer ces liens, on peut travailler sur les différences aussi. Et voici ma dernière diapo. Et ensuite, Jeff peut prendre la relève. Pour moi, ceci représente l'engagement de l'industrie envers les codes de pratique et en vue du soin des animaux. Personne ne vient contre leur gré à la table. On ne savait pas qui allait se présenter. Et comme vous pouvez le voir, nous avons 7 codes en marche. Hier, c'était l'oiseau de la volaille pour la viande de volaille et c'est devenu la 7e espèce. Nous avons commencé par essayer de terminer 5 et d'initier 3 autres et nous pensons en avoir terminé 6. Et à partir de ce matin, nous avons eu un courriel des producteurs du Canada qui veulent aussi mettre à jour leur code. Donc, ceci démontre l'engagement de l'industrie. Donc, nous faisons tout cela grâce à des financements de projets qui se terminent le 31 décembre 2013. Nous n'avons pas un processus à long terme qui peut être soutenu. Donc, mon défi est pour vous tous. Si nous voulons valider tout ce processus, il faut que ça soit durable au-delà de 2013. Bonjour, comment ça va? Donc, j'ai peur de toucher à ce petit appareil. Je vais demander au technicien de m'aider. Est-ce que vous pouvez m'entendre? J'ai l'impression d'être dans une bulle, moi aussi. Et Jackie a mentionné à quel point les codes actuels sont basés sur la science, ont une perspective scientifique. Et c'est une véritable force. Et cela correspond à la façon dont le gouvernement pense qu'on devrait faire les choses. Et ce qui se passe à l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, insiste que les normes pour le bien-être animal soient basées sur la science. Je vais faire une petite analyse rapide des codes de pratique, surtout dans quelle mesure on peut utiliser la science pour les mettre en œuvre. Une des forces, c'est que le Canada a une communauté relativement vaste de scientifiques qui travaillent au bien-être animal. Et j'ai compté le personnel scientifique qui travaille dans ce domaine dans les pays, et j'ai divisé ça par la taille de la population. Dans les pays scandinaves, les pays nordiques, 4,61 scientifiques par 1 million d'habitants. Mais le Canada, on s'en tire bien, c'est l'équivalent à ce qui se passe dans la plupart des pays européens. Et vous pouvez voir que c'est beaucoup mieux que, par exemple, aux États-Unis, qui a moins d'un quart des scientifiques par million d'habitants. Donc, nous avons ce pouvoir du personnel scientifique au Canada pour que ces codes puissent être bien encadrés. Une autre de nos forces, c'est que nous, les scientifiques, nous avons mis au point des relations très serrées avec les autres groupes d'acteurs, non seulement les organismes de producteurs, mais les groupes de bien-être des animaux, des groupes de consommateurs. Et ce qui est intéressant, c'est quelque chose qui surprend toujours mes collègues européens, c'est à quel point les groupes de producteurs financent la recherche qui est menée au Canada. Et voici une liste des organisations pour le bien-être du cheptel laitier. Valacta fournit de l'information et nous avons des détaillants dans le domaine des aliments. Donc, il y a un lien serré entre les scientifiques et ses intervenants, et c'est une véritable force sur laquelle nous pouvons miser. Une autre grande force, c'est que les scientifiques qui travaillent ici ont beaucoup d'expérience pour l'établissement de normes de bien-être animal sur d'autres tribunes. David Fraser, qui est notre vedette internationale auprès de l'OIE et la FAO, beaucoup d'autres entre nous ont eu de l'expérience avec d'autres organisations pour mettre au point des normes. Je crois que nous sommes en bonne posture pour voir est-ce que les normes canadiennes correspondent bien avec les développements à l'échelle internationale. Donc, voici nos forces. Nous avons maintenant une stratégie nationale. Nous faisons le lien avec la recherche, ce qui se fait. Et il y a une force que j'ai oublié de mentionner. Je crois qu'une des véritables forces que nous avons au Canada, c'est que de voir les organisations de bien-être animal qui sont raisonnables. Ils sont prêts à s'asseoir dans une salle avec les groupes de l'industrie pour en arriver à un compromis. Je crois que c'est une véritable force que nous avons et vous le remarquerez, surtout lorsqu'on voit ce qui se passe chez nos amis américains où les choses sont devenues tellement extrêmes qu'il est difficile de voir des compromis. Et nous devons reconnaître que c'est une véritable force chez nous et qu'on doit la protéger. Maintenant, les faiblesses. Comme le comité des codes a découvert, il y a des thèmes bien importants du bien-être animal qui n'ont pas été convenablement étudiés. La plupart de la recherche qui s'est faite en Europe s'est faite en Europe. Ce n'est pas un problème pour la production de la volaille ou du porc, mais c'est un problème avec le bœuf. Nous avons une production très différente ici pour ce qui est du bœuf. Il y a une plainte qu'il est difficile d'obtenir de l'argent. C'est en dents de scie. Le financement de la recherche est en dents de scie, est imprévisible. On essaye de trouver des priorités pour la recherche, mais à moins que les gens qui aient vraiment les cordons de la bourse décident de financer ces projets, beaucoup d'entre eux tombent à l'eau. Ici, nous allons développer cela comme une stratégie. Nous devons faire un lien entre le financement et l'élaboration du processus des codes. Bon, la recherche est inégale. Il y a beaucoup qui se fait sur la vache laitière, par exemple, beaucoup moins sur le bovin. La production de la volaille, jusqu'à maintenant, c'était pas bien financé. Nous avions une seule personne qui nous aidait. Mais lorsque vous regardez le cheval, le mouton, il y a on doit faire davantage de recherches. Il y a un véritable manque. Si nous voulons être sérieux, nous devons reconnaître que nous n'avons pas l'infrastructure d'évaluation du bien-être animal. Si les groupes disaient qu'il faut faire des évaluations, je ne pense pas qu'on pourrait le faire parce que personne n'est formé pour ces méthodes d'évaluation en bien-être animal. Nous n'avons pas cette expertise comparée à la situation qui existe chez nous. Maintenant, les possibilités, les codes de pratique sont une bonne façon de transmettre les résultats de recherche à l'industrie et nous voyons qu'il y a des défis pour transférer les résultats vers l'industrie. Ainsi, les codes de pratique pourront nous aider. De convaincre les organismes de financement de la valeur de recherche sur le bien-être animal, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais je dois convaincre Agriculture Canada tous les ans de me donner un peu plus d'argent. Et pour faire cela, ils doivent voir qu'il y a un résultat concret, qu'il y a un impact, une incidence sur la communauté dans son ensemble. Les codes de pratique sont une façon de montrer que ça vaut la peine d'investir de la recherche dans le bien-être animal, parce que en bout de ligne, l'industrie s'en sert. Nous pouvons aider à créer un réseau de recherche sur le bien-être des animaux d'élevage. Nous avons un bon lien entre nous et c'est une façon de resserrer les liens entre les groupes de producteurs, les groupes de bien-être animal et les chercheurs scientifiques. Il y a des possibilités de nous intégrer dans l'actualité internationale et nous acceptons qu'on a des pressions de l'extérieur du pays, mais avec les codes de pratique, cela va nous permettre de voir que ce que l'on fait, on tient compte des développements internationaux. Et c'est important pour le commerce international, comme le porc et le bœuf, qui vendent leurs produits en dehors du Canada. Et il y a aussi beaucoup d'occasions d'affaires à saisir, présentées par la création d'une infrastructure d'évaluation du bien-être animal. Vous pouvez voir aux États-Unis, des compagnies ont commencé à faire ces évaluations. Donc, les gens voient qu'il y a de l'argent à faire pour le développement de cette évaluation du bien-être animal, ce qui est une approche intéressante. Maintenant, les menaces. Il y a un véritable danger que les codes soient passés sous silence. Et je crois que c'était la plus grande plainte que les gens avaient sur les anciens codes de pratique que nous avons dépensé tout ce temps à trouver des codes qui ont été tout simplement ignorés. C'est vrai non seulement des groupes de l'industrie qui ne tiennent pas compte de certaines recommandations, mais c'est un danger avec les groupes de bien-être animal pour essayer d'obtenir du financement prennent un point de vue de plus en plus extrême. Donc, c'est un véritable défi que nous devons reconnaître. Nous devons reconnaître que de part et d'autre, du départ, on prenne ces codes de pratique au sérieux et qu'on ajuste nos politiques. Dans la recherche, c'est toujours un problème. Les gens disent, faisons de la recherche sur ci, on fait de la recherche sur ça. Et les gens disent, on n'aime pas les résultats. Et il est très difficile, j'ai remarqué, pour l'industrie, le public, le gouvernement, les groupes de défense du bien-être animal, pour tout le monde, d'accepter les résultats de recherche contre à leurs idées préconçues. Et parfois, il y a cela ne correspond pas à leur réalité. De se tourner vers la science est risqué parce que les résultats ne seront peut-être pas ceux que vous voudrez voir. Il y a un danger qu'on n'utilise pas bon escient la science. La science a encore un degré de crédibilité chez le public et le gouvernement. On voit que c'est pratique. Et lorsque les gens se disent en contradiction, ils disent « regardons ce que la science dit ». Et je crois que le CNSAE a fait un très bon travail. On voit que les scientifiques sont indépendants des autres groupes et les résultats seront publics. Et si les groupes de l'industrie ou les groupes du bien-être animal, c'est facile que pour tout le monde de le voir. Il est important de reconnaître que cette objectivité chez les scientifiques est quelque chose à maintenir. C'est un danger que les gens qu'on perçoive ces codes comme une solution finale ou définitive. La barre continue à être rehaussée, à monter plus haut, et certains réalisent que ça sera une première étape. Et la dernière menace, c'est que nous soyons doublés par nos concurrents. Et c'est surtout vrai pour l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Je suis allée à une conférence scientifique sur la science vétérinaire au Chili sur le bétail et j'ai été étonnée de voir à quel point ils sont intéressés. Et eux pensent qu'ils vont nourrir le monde. Et ils probablement peuvent le faire à beaucoup moins de frais que nous. Et ils disent que s'ils doivent exporter vers l'Europe ou l'Amérique du Nord, ce sera important pour leur industrie de montrer qu'ils répondent aux normes internationales. Et à moins de prendre tout cela au sérieux dans nos compagnies concurrentes, on ne veut pas qu'ils soient doublés par ces pays. Et Jackie m'a demandé de parler de cette... Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. C'est un proverbe africain. Ce n'est pas une photo de l'Afrique. Je crois que c'est une photo de Jackie au pôle Nord, dans l'Alberta, qui nous montre l'importance d'aller tous dans la même direction si vous êtes sur un terrain dangereux. Avec ça, je termine mon exposé. Merci. Nous avons du temps pour la période de questions et si vous voulez les poser, Bill, Jackie, cette question pour qui? Je n'ai pas crié, je suis au micro. C'est une question pour Jackie, résultant des commentaires de Jeff. On ne devrait pas être... si fière qu'on ne devrait pas garder ce travail ici au Canada. Ça devrait être diffusé ailleurs. Nous avons vu des résultats. Je suis heureux de vous dire qu'on a fait référence dans une demande pour une vente d'animaux à nos codes et le fait que nous mettons au point ces codes. Moi, je dis on les remet au point. Et il y aura une incidence sur les marchés étrangers. Et comme Jeff a dit, nous devons être fiers de tout cela. Et la question est, que fera le Conseil national pour dire au monde que nous établissons des codes de pratique exhaustifs et qui incluent plusieurs productions? Et on espère que nos participants de l'industrie des animaux vont y adhérer parce que ce n'est pas encore des réglementations, mais j'espère que ça fera partie des réglementations plus tard. Mais ma question, que faisons-nous pour diffuser cela autour du monde et pour aider nos marchés étrangers? L'une des activités que nous avons grâce à ce projet, c'est la diffusion et la promotion. Et dans la mesure du possible, nous essayons de voir à ce que on participe participe à des activités internationales. Je n'ai pas fait une présentation, mais nous avons eu une présentation sur une affiche sur le processus du code à une conférence au Royaume-Uni cette année. Et aussi, nous nous fions sur nos partenaires autour de la table du Conseil national pour qu'ils diffusent le mot. Nous sommes une organisation très petite. Nous avons des ressources humaines limitées. Nous nous fions sur nos partenaires. Et cette année, nous pouvons remercier la CIA. Ils nous ont invités à faire partie de la délégation canadienne à l'Assemblée générale de l'OIE. Et c'était notre chance d'avoir des conversations pour parler de nos codes, nos perspectives, de cette approche de collaboration, comment nous travaillons pour nous asseoir avec tous les intervenants et pour créer des relations qui vont mener à des améliorations dans le bien-être des animaux d'élevage. Donc, nous tirons parti de ces occasions et je dois remercier Agri Flexibilité pour le financement que nous avons reçu parce que ça a été toute une occasion pour nous de mettre au point le matériel de communication dont nous avons besoin pour communiquer ce que nous faisons. Et l'annonce sur les réalisations 2011, la brochure vient de sortir à temps pour cette conférence. La brochure sur le code de pratique du Conseil national. Ça, c'est le genre de choses que nous pouvons utiliser pour répandre le mot et même nos sites web. Et ce projet va nous aider à lancer beaucoup de ces connexions internationales pour communiquer ce que nous faisons ici au Canada. Neil, Jonathan, de l'Institut de la fourrure du Canada. Je me demande à quel point les codes sont utilisés dans les discussions qui touchent l'entente vétérinaire entre le Canada et l'Union européenne. Je ne puis répondre à votre question parce que je ne fais pas partie des discussions qui se font entre le Canada et l'Union européenne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui pourrait répondre à votre question, monsieur. Bon, si on utilise les codes, on doit pouvoir convaincre les gens que les producteurs suivent les codes. Et c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle. Et le Conseil national, on essaye de remplir cette lacune. On essaye de démontrer aux gens que les producteurs suivent les codes. Et ça a toujours été le problème que nous avons eu jusqu'à maintenant. Micro, s'il vous plaît. Micro. Bon, il y a une autre façon de diffuser l'information sur notre code. J'ai un commentaire. Jane Goodrich, avec les producteurs porcins du Manitoba. Je vois beaucoup de nouvelles dans les médias sur l'agriculture des animaux et je vois des choses négatives. On ne transmet pas le message de façon publique. Il y a une annonce horrible sur les stalles des porcs à la télé. Il y a des messages qui sont transmis, d'horribles messages, et de mettre à jour tout cela, c'est quelque chose que la population urbaine doit connaître. Et alors que les gens transmettent un message négatif, nous devons être proactifs. Personne ne nous force de faire ces choses-là. Personne n'écoute notre son de cloche. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut davantage transmettre le mot? Et il y a beaucoup de gens qui me demandent des nouvelles sur les stalles. Et les gens me disent, pourquoi est-ce que vous ne transmettez pas mieux votre message? Eh bien, nous ne parlons pas au nom d'un groupe particulier, dit Jackie. Et le Conseil national a travaillé à l'échelle interne avec ses partenaires pour voir à ce que nous soyons tous sur la même page et que nous y soyons, que nous ayons un argument bien convaincant et bien ferme avant d'aller parler au public et de commencer à parler au public sur ce que nous faisons. Mais je crois qu'il y a d'autres initiatives qui existent, qui parlent de la défense de l'agriculture et d'avoir un aspect positif. Et pour nous, le CNSAE, nous consacrons nos énergies vers le positif. Et je crois que David avait un commentaire. Je veux seulement ajouter quelque chose, dit David. Cela montre l'importance de montrer au public que les producteurs sont en conformité. Bon, n'importe qui peut dire les agriculteurs font n'importe quoi au Canada. Et on ne peut pas dire et X% des producteurs porcins n'utilisent plus les stalles parce qu'on ne sait pas. Alors, il est important de montrer que les producteurs se conforment aux normes. J'allais faire un commentaire sur la remarque David Trust à Agriculture Canada. Je voulais faire un commentaire sur l'intervention de Bill. Pour revenir à la question de Bill, il y a plusieurs niveaux pour ce qui est de ce que le Canada fait par rapport aux autres pays. Et ce qu'il demande, parfois il y a le niveau du public, le niveau de l'industrie et parfois le niveau du gouvernement. Mais il y a aussi l'international et l'OIE et la grande organisation. Et c'est à l'OIE où le Canada est un participant actif. Il y a M. Fraser qui participe sur le groupe de bien-être. Mais lorsque des nouveaux codes sont élaborés, le Canada participe activement et il y a une possibilité pour que tous les groupes fassent des commentaires, proposent des solutions ou des façons de changer, d'améliorer les codes internationaux aussi. Et non seulement est-il important de faire avancer la question du soin des animaux d'élevage ici au Canada, mais aussi partout au monde, parce qu'à un moment donné, il y a la question des éléments commerciaux. Et à l'échelle bilatérale, nous participons aussi avec d'autres pays sur divers facteurs qui touchent le bien-être animal. Et nous avons un bon ambassadeur à l'OIE pour le Canada et il parle des bonnes choses qui se font ici chez nous. Nous avons le temps de poser une autre question. Jack Gordonis, le producteur des œufs d'incubation. Pour revenir à la question, est-ce que le CNSSAE peut réglementer? Est-ce qu'on peut voir à ce que ça se fasse? Quelles sont vos idées là-dessus? Si le Conseil national peut être un organisme de réglementation, bien, ça ne sera pas le Conseil national pour le soin des animaux d'élevage qui s'occupera de la réglementation. Comme je l'ai dit dans une de mes diapos, la recherche montre que la meilleure façon d'améliorer le bien-être animal, c'est de faire des choses de promotion. Les réglementations existent, mais lorsque je parle de diffusion de l'information, ce n'est pas facile. Jeff et Anne-Marie travaillaient beaucoup avec l'industrie laitière pour ce qui est de la vulgarisation. Et ce n'est pas facile de faire cette vulgarisation. C'est notre défi. Mais c'est vraiment la meilleure façon de voir est-ce qu'il y a des améliorations dans le soin des animaux. Et il y a de la recherche axée sur la science qui peut nous aider dans ce sens.